un podcast Binge Audio.
On peut y aller ? C'est parti.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé, fidèles amateurs de l'audio parlé que vous êtes, qu'on fête en ce mois de juin 2021 les 100 ans de la radio. Alors on va pas rouvrir ici le débat qui consiste à essayer de savoir si les podcasts, y compris celui-ci, sont ou ne sont pas de la radio. Disons que nous en sommes au minimum les héritiers directs. Les héritiers d'ailleurs de plusieurs traditions de radio, de celle classique qui consiste à fabriquer et produire des programmes, et d'une autre plus échevelée, plus décontractée aussi, qui est celle de la radio libre, née au début des années 80 du déverrouillage de la bande FM déjà grignotée par bon nombre d'antennes pirates dont le dynamisme et l'inventivité avaient changé le paysage radiophonique. Parmi les nombreuses radios pirates devenues cultes, il en est une qui a laissé dans l'Est de la France et au-delà un souvenir puissant. Elle s'appelait Lorraine Cœur d'Acier, ou LCA. Lancée par la CGT pour accompagner les luttes sociales de la sidérurgie dans la région de Longwy, elle est vite devenue beaucoup plus durant sa courte vie de 1979 à 1981. Et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
Cette envie de parler de LCA, elle nous vient tout droit de la lecture d'une bande dessinée qui vient de paraître chez Futuropolis et qui lui est consacrée. Elle s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire. Elle est signée par le dessinateur Vincent Bailly et le scénariste Tristan Thiel, qui sont nos invités aujourd'hui et à qui j'ai pour commencer fait état d'un constat, celui que la lecture de leur BD conforte au moins une idée importante quand on parle de radio, la puissance de ce média comme catalyseur et amplificateur de liens sociaux. C'est Tristan Thiel qui répond le premier.
Dans le cas de Lorraine Cœur d'Acier, ce que tu appelles être générateur de liens sociaux, évidemment, c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle avait été montée. Elle a été montée pour relayer la lutte, mais du coup, pour relayer la lutte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire communiquer sur les actions en cours, communiquer sur ce qui se passe, faire savoir les événements, faire savoir à tout le monde les différentes évolutions dans les différents ateliers, puisque ça communiquait aussi beaucoup comme ça, quoi. Donc, et puis accélérateur de lien social aussi, oui, sans doute, sur cette parole qui a été donc donnée à des gens qui ne l'avaient pas jusque-là, et sur le changement des relations sociales qu'elle a induites au sein d'un bassin ouvrier comme celui de Longwy à l'époque.
Oui, parce que ce que ça montre, c'est qu'au-delà justement de sa raison première qui est le relais des luttes, Lorraine Cœur d'Acier, ça devient beaucoup plus que ça. Ça fait partie des épisodes importants que vous montrez, notamment quand les femmes commencent à avoir la parole. C'était des séquences, j'imagine, qui étaient au cœur vraiment de ce que vous vouliez montrer tous les deux.
Oui, carrément. On a tendu un micro à des gens, des ouvriers qui n'avaient pas trop l'habitude de parler d'eux-mêmes, qui devaient sûrement agiter les bras au PMU, mais qui n'avaient pas cette habitude-là de parler face à un micro. Alors, les ouvriers ont commencé à parler, les femmes aussi, c'est ce qui est présent aussi dans l'album, et c'est ce qu'on trouve aussi dans les fichiers audio sur Radio Lorraine Cœur d'Acier. Il y a plein de personnes qui sont venues dans cette radio, qui ont raconté leur vie, et clairement, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant, quoi.
En fait, LCA, ça... C'est une image un peu bête, mais disons que ça a ouvert les vannes, ou ouvert le robinet, si tu veux, d'une parole qui était sans doute contenue depuis très longtemps. Et on parle de ces émissions. Enfin, il y a une émission qui est racontée dans l'album où les femmes s'expriment, mais en fait, il y en a eu beaucoup. Et si tu veux, on sent dans ce genre de moment comment cette parole, elle a été si longtemps contenue, et comment d'un coup, elle se lâche avec... parfois avec fracas, quoi.
J'étais vraiment en train d'accoucher quand je me suis représentée à l'hôpital. L'enfant faisait 3,8 kg. L'enfant est venu, elle a crié, et bien rose et tout. Cet enfant, vous savez où elle est? Je ne sais pas où elle est parce qu'elle est morte, monsieur. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que cet enfant-là, elle voulait vivre et puis je ne l'ai plus. Et on a voulu me faire une autopsie, j'ai pas voulu, moi. Et cette même semaine, il y en a eu 5, vous entendez, 5 enfants qui sont morts. Alors vous voyez, monsieur, les accouchements, ça, c'est en retard tout ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille maintenant, je ne voudrais pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Vous comprenez?
On vous comprend très bien, madame.
Je voudrais que les docteurs y comprennent ce que je dis maintenant.
Ça a été une expérience assez courte, LCA. Ça a duré 18 mois à peu près, de 79 à 81. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui là-bas dans la mémoire? Est-ce que vous êtes allé creuser un peu les souvenirs de celles et ceux qui ont participé ou écouté, qui ont vécu cette radio?
Ça reste dans toutes les mémoires là-haut. Moi, j'habite Longwy, hein. Ça fait 9 ans que j'y suis. Donc oui, il y a une nostalgie, d'une part. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque qui a fait que les gens ont commencé à parler entre eux. Ils ont posé des jalons. Et c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt pour cette période-là, pour ceux qui l'ont vécu.
Et quand on a aussi discuté avec, eu l'occasion de rencontrer, de discuter beaucoup avec les journalistes qui animaient la radio à l'époque, donc Marcel Triet et Jacques Dupont. Et chez eux, en tout cas, le souvenir est très important, quoi. Marcel en parlait encore avec beaucoup d'émotion et il a entretenu le souvenir et la mémoire de Lorraine Cœur d'Acier toute sa vie. C'est quelque chose qui a été à la fois très libérateur, mais en même temps assez traumatisant. Surtout dans la manière dont ça s'est terminé, en tout cas.
Si on reprend l'histoire un peu du début, effectivement, à l'origine, on l'a dit, c'est une volonté syndicale de créer cette radio, mais elle est mise entre les mains de deux journalistes, Marcel Triet et Jacques Dupont, imposent dès le début le fait d'être libre, éditorialement, d'avoir une liberté d'expression journalistique.
Et c'est ce qui fait la richesse de cette radio, et de cette expérience-là. C'est vrai que pour le coup, Triet et Dupont débarquent en disant « Bon, ok, on est sur une radio faite par la CGT, mais on ne va pas faire du syndicalisme. En tout cas, on ne va pas faire que ça. Tout le monde va pouvoir parler, y compris les patrons, hein, oui, y compris les gens de droite. Voilà. Donc, au pire, ouais, pire encore, les gauchistes.
Krivine, Alain Krivine, pire encore.
Krivine est venu causer dans le micro. Donc, oui, il y a cet aspect-là, le fait de tendre le micro à tout le monde, qui était assez révolutionnaire, j'en sais rien, mais pour le coup, qui a sûrement un peu surpris les gens à l'époque, entre autres le secrétaire de la CGT, Michel Onmi. Il s'est dit, ouais, c'est une bonne idée, il faut y aller. Et c'est cette qualité humaine-là, le fait que tout le monde ait pu causer, qui fait la richesse de cette expérience. Et le fait que les gens, finalement, aiment cette histoire et qu'ils en parlent encore maintenant.
Allez-y. Bon, nous avons une auditrice qui est outrée par le brouillage de LCA, premièrement, et par le brouillage d'autres ondes aussi. Allez, madame.
Oui.
Vous êtes en direct à l'antenne, vous pouvez parler.
Écoutez, je suis indignée. Il faudrait quand même que les gens fassent une pétition et quelque chose pour agir, une pétition qui parte au préfet, parce qu'on n'a quand même pas le droit de brouiller des postes comme ça, ça devrait être interdit.
C'est
ou
vrai,
alors il n'y a plus de liberté, alors. On n'est plus égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus, alors.
Mais madame, le fait que vous nous entendiez tous en ce moment, vous nous entendez, là?
Comment?
Vous nous entendez? Vous
oui, êtes là, pas je vous entends tous, hein.
Vous n'êtes
oui,
pas brouillé, là?
Vous n'êtes pas brouillé?
Non, pas du tout.
Ah bah formidable.
Oui. Bah disons pas trop fort parce
qu'on va peut-être se réveiller. Non, pas du tout.
Alors évidemment tout ne va pas être très simple parce qu'on parle d'une radio pirate parce qu'à l'époque les ondes ne sont pas libres. Il faudra attendre justement un an après la fin de LCA en 82 pour que les radios deviennent libres. Malgré tout au début ils émettent un peu tranquillement et puis au bout d'un moment ça commence à être un peu plus compliqué. Il commence à y avoir de plus en plus de pression sur la radio et de plus en plus de tentatives de les faire taire, simplement.
C'est un combat depuis le départ. Hein. Ouais. Alors techniquement, ils avaient des gros moyens par rapport à d'autres radios qu'on puisse faire à ce moment-là, mais ça reste une radio pirate. Mais ils avaient installé une antenne en haut du clocher de l'église, à Longwy-Haut, sur la place. C'est un point très haut, donc ça diffuse partout. Et dès le départ, j'imagine qu'ils n'ont pas envie, au niveau du pouvoir en place, que ça diffuse tant que ça. Donc dès le départ, il y a des tentatives de brouillage. Alors ils n'ont jamais osé y aller physiquement, parce qu'il y avait les ouvriers autour qui défendaient le truc, quoi. Il suffisait d'un coup de fil et il y avait 100 personnes sur la place pour protéger le machin. Mais oui, il y a eu pas mal de tentatives, y compris des hélicoptères qui brouillaient les ondes, et jusqu'à l'antenne du Bois de Chat, qui est une grosse antenne à côté, sur laquelle ils avaient mis un brouilleur, et que les ouvriers sont montés à l'assaut de cette antenne, et il y a eu une vraie grosse nuit de heurts avec les CRS, dont pas mal de gens se souviennent encore, quoi.
Et d'ailleurs, ces heurts, vous les montrez, ils concernent pas que la radio, ils concernent généralement le mouvement ouvrier à cette époque-là, qui manifeste beaucoup, qui tente de faire entendre la détresse de ces bassins qu'on est en train de détruire petit à petit. Ça s'inscrivait non pas dans une histoire uniquement locale, mais aussi dans une histoire nationale à cette époque-là.
Exactement. Donc bon, la radio, de toute façon, fait partie d'une lutte globale, quoi. C'est une des actions, un des moyens utilisés par la lutte pour se faire entendre et faire des mouvements, etc., etc. Mais c'est vrai, tu as raison de le souligner, le plan d'Avignon qui vise à la restructuration de la sidérurgie française ne concerne pas que le bassin de Longwy, il concerne aussi les bassins du nord de la France, etc. Et c'est notamment le 23 mars 1979 que tu as la grande manifestation des sidérurgistes à Paris qui rassemble plus de 100 000 personnes. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a pas mal de mouvements sociaux et on est dans cette période économique charnière, quoi, tu vois, de bascule dans les fins des années 70 et début 80, où la France se désindustrialise. Ouais, on appelle ça une restructuration. On peut appeler ça aussi une liquidation, en fait, des industries considérées comme plus rentables. Et on est dans un moment d'histoire comme ça où on va abandonner ces industries-là, se tourner vers autre chose et créer beaucoup de chômage aussi, quoi. C'est l'entrée dans le néolibéralisme, c'est l'arrivée de Thatcher et de Reagan, de Mitterrand aussi, enfin voilà.
On entend au sous-texte, on le voit passer, on parle beaucoup de Margaret Thatcher, enfin on entend des petites bribes comme ça du monde autour qui bouge.
C'est toujours amusant de mettre le nez dans les archives et de les écouter avec du recul et de voir que ce qui semble être des signaux faibles ou des inquiétudes ou des opinions parfois se révèlent être des analyses qui ont été pour le coup assez fines à l'époque, quoi. Voilà, je pense par exemple, il y a une des scènes qu'on a représentées dans l'album, c'est l'intervention de Krivine. Bon, le projet n'était pas forcément de mettre Krivine en avant pour Krivine et pour la LCR, etc. Mais ce qu'il dit à un moment donné de l'Europe, de la façon de lutter, de ce que ça doit être une lutte ouvrière et une lutte de classe, quand on lit ça 40 ans après, on se dit en fait, c'était plutôt bien vu, en fait, comme analyse, quoi.
Bonjour, au micro de Lorraine Cœur d'Acier, Alain Krivine. Alain Krivine est dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire.
Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, ce qui se passe en France se passe dans les autres pays d'Europe? Je crois qu'il ne faut pas se boucher les yeux pour essayer aujourd'hui de développer, disons, une politique nationaliste sur le thème « Produisons français » telle qu'elle est développée aujourd'hui, mais de voir que nous avons exactement les mêmes phénomènes en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, c'est-à-dire aujourd'hui les fermetures d'entreprises, les liquidations de secteurs entiers, l'inflation et le chômage. Ça situe notre combat à deux niveaux, c'est-à-dire de montrer bien sûr qu'il y a d'abord le combat des travailleurs français contre leur gouvernement, contre les plans de restructuration tels qu'ils sont faits, mais en même temps de comprendre la solidarité de ce combat qui nous unit avec les travailleurs allemands, avec les travailleurs belges, avec les travailleurs luxembourgeois, parce que nous subissons la même crise, parce que nous sommes confrontés au même patronat, et par conséquent parce qu'il y a des revendications communes. Il faut un combat européen de la classe ouvrière, et certainement pas dans le cadre des institutions capitalistes telles que les bourgeoisies européennes veulent nous les faire avaliser pour les élections européennes. Alors je crois que c'est ça la réalité, et pas l'inverse. Et que toute position aujourd'hui chauvine, nationaliste, d'abord, ne reflète pas la réalité de ce qu'est la crise. Et deuxièmement, là, je crois, peut permettre une politique de collaboration de classe. Parce que dans le cadre du nationalisme, on ne sera pas seul, il y aura aussi le RPR. Et je crois que ça ne peut que nuire au combat et à l'indépendance de la classe ouvrière.
Il y a quelque chose de doux-amer à la lecture de la BD, parce qu'on sent tout l'entrain, l'allant qu'il y avait sur place, l'espoir aussi de voir les choses s'améliorer. Malheureusement, on sait que ça n'aura pas suffi, ces initiatives-là n'auront pas suffi à sauver ces industries, ces boulots. C'est un mélange de tout ça qu'on ressent quand on le lit, un peu de nostalgie, un peu de désespoir qui commence à poindre aussi.
C'est un peu tout ça que les gens ressentent sur place, clairement. Alors la nostalgie, évidemment. Et puis ce moment, en fait, ils étaient tous très soudés, quoi, sur ces luttes. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de paroles. Et puis le grand capital, entre guillemets, a quand même gagné. Et puis voilà, les gens sont partis. La région n'était plus la même ensuite, évidemment. Donc voilà, on ne voulait pas faire un album trop nostalgique, mais clairement, c'est la fin d'une époque. Donc on en rend compte, et c'est comme ça que les gens le ressentent, de toute façon.
Il y a une idée de fin d'époque. Tu dis un truc doux-amer dans cet album. Oui, c'est ça, tu vois, c'est aussi la... Nous, on y entre par le prisme, tu vois, d'une famille et d'une bande de copains qui sont des personnages de fiction, mais qui sont tout à fait raccord avec ceux qui ont pu exister à l'époque. C'est aussi le changement d'âge, quoi, tu vois. Donc le personnage qui a 18 ans à l'époque, lui, aspire à autre chose, il s'en va, donc c'est... voilà, il y a plein d'éléments de rupture comme ça qui se mettent en place. Après, ce genre d'histoire, c'est, elle va dans le même sens, malheureusement, si on peut dire, de beaucoup d'histoires de lutte ouvrière. Et c'est l'histoire du mouvement ouvrier, etc., qui est toujours à la fin quelque part perdant, même si, dans le cas de Longwy, les conventions sociales qui ont été négociées à la fin, elles ont été assez bonnes, quoi, finalement, pour les
enfants. Pour la génération qui était des plus anciens, c'est ce qu'on ressent à la fin. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, c'était le choix du chômage, là aussi.
Bah, c'est exactement ça. Je disais, il y a plein de ruptures dans cette époque-là. Une des ruptures qui me semble très importante aussi, c'est que, pour le dire un peu vulgairement, à partir de maintenant, on va plus négocier, on va plus se battre pour l'emploi, on va se battre pour le chèque, en fait. Donc, si tu veux, c'est, il y a l'acceptation du plan social, du plan de suppression d'emplois, et l'idée, c'est d'en retirer le maximum avant de se faire lourder, quoi. Mais il n'y a plus l'idée de pouvoir pérenniser l'emploi pour les générations futures, etc. Après, est-ce que c'est dommage ? Je ne sais pas, moi. Vincent disait qu'il n'y a pas de nostalgie. Nous, effectivement, moi, je ne suis pas en train de dire que c'était génial avant. Les gens qui bossaient là-dedans, ils avaient des vies très dures.
Et d'ailleurs, vous le montrez, c'était un métier dangereux, un métier difficile.
Après, ce que les gens, souvent, ce qu'il peut y avoir de nostalgie là-dedans, c'est qu'effectivement, il y avait sans doute, enfin, c'est pas sans doute, il y avait un certain état d'esprit, une solidarité, un esprit de classe, si on peut dire, qui existait et qui a disparu avec l'effilochage de ce tissu social-là, quoi.
Alors, il y a deux éléments qui sont accessoires, hein, au récit principal, mais qui sont des petits plaisirs de lecteur quand on est fan de BD et fan de musique, accessoirement. C'est deux références qu'on sent très bien. Une à Baru, forcément dessinateur de BD très associé à ces univers-là et à cette région-là. Et l'autre au Clash, qui reviennent, qui vont et viennent, qui sont un peu un fil directeur qui a plusieurs séquences assez importantes autour des Clash.
C'est quelque chose qu'on voulait, oui, clairement. Alors les Clash, en plus, on a même un peu triché, ouais. En fait, on a un peu décalé le concert pour que nos héros puissent participer à ça. Et c'était un vrai plaisir, évidemment, de les mettre en scène, de les dessiner et d'avoir les Clash dans l'album. Et Baru, oui. Baru, il nous fait l'amitié de faire 4 pages en postface. Voilà, c'est quelqu'un, moi, qui m'a influencé de toute façon, donc dont je connais le boulot. Et évidemment, quand on parle de lutte sociale sur la Lorraine Nord, c'est quelqu'un qui est incontournable. Donc oui, quelqu'un qu'on a eu plaisir à avoir dans l'album de toute façon.
Voilà, c'était super de mettre les Clash en scène, et puis c'était compliqué de résister à ça. Après, pour une bande dessinée, c'est vachement sonore et musical. Et c'était très amusant à mettre en scène ça, justement, en bande dessinée, quoi. Comment est-ce que tu gères le son en bande dessinée? Et voilà, c'était que ce soit pour la radio ou pour la musique, quoi, mais c'était un des petits challenges de cet album.
Et la BD de nos invités, Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire, elle est dispo, on l'a dit, chez Futuropolis. Merci à Vincent Bailly et Tristan Thiel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.